sais pas si c'est pareil pour vous, mais lorsque vous voulez être encouragé, il suffit de prendre certains psaumes et ça vous redonne tout de suite la pêche. Et ce matin, c'est vrai qu'on a lu beaucoup de psaumes, on a chanté des psaumes. Et ça doit être quelque chose pour nous qui nous permette de nous encourager à faire de nos vies ce que Dieu veut que nous fassions de nos vies. Et il est un psaume que vous connaissez bien, c'est un psaume qui est messianique, qui parle de Jésus, c'est le psaume 110, on va le lire ensemble. Et j'ai trouvé dans un bouquin de C.S. Lewis qui s'appelle Le Grand Divorce, la traduction un petit peu plus moderne et adaptée à nos vies. Lisons d'abord le psaume 110. « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de la colère. Il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Alors bien évidemment, ce texte parle de David, le grand roi David qui, comme nous, avait ses moments de faiblesse et ses moments de doute. Et les psaumes, finalement, sont des cris vers Dieu. Et je crois que, on l'a vu encore ce matin, il faut savoir crier vers Dieu pour lui poser des questions, pour l'interroger, pour lui demander son aide. Et donc, on peut aussi le lire à la manière de C.S. Lewis, et c'est ce qu'il nous donne, et écoutez bien, parce que ça change un petit peu le sens du texte, enfin, ça l'explique. Le maître a dit à notre maître, « Viens partager mon repos et ma gloire, jusqu'à ce que tout ce qui t'était hostile te soit soumis et danse devant toi, te serve de monture et de marchepied. Une autorité te sera donnée qui vient du seul lieu réel, situé au-delà de l'espace et du temps. Les forces qui jadis s'opposaient à ta volonté couleront comme un feu docile dans ton sang et éclateront comme un tonnerre céleste dans ta voix. Maître, soumets-nous à ta volonté afin qu'ainsi nous puissions être nous-mêmes. » Je voudrais que vous reteniez ce passage. « Maître, soumets-nous à ta volonté, afin qu'ainsi nous puissions être nous-mêmes. Nous désirons l'avènement de ton règne, comme nous appelons de nos voeux l'aube et la rosée. Le jour qui naît, ruisselant, Maître, ton Maître a fait de toi pour toujours le roi de justice et notre grand prêtre. » Ça, c'est une traduction, une adaptation de C.S. Lewis dans « Le Grand Divorce » et la phrase qui est importante, c'est « Soumets-nous à ta volonté afin que nous puissions être nous-mêmes. » Que faisons-nous de nos vies? Réfléchissons-nous à quoi nous passons notre temps? Alors, est-ce que Dieu, pour nous, n'est simplement qu'un passe-temps ou un hobby auquel il ne convient de donner que de notre temps superflu? Ou au contraire, est-il toujours dans notre vie afin que nous puissions devenir nous-mêmes? C'est ce que Dieu veut pour nous, que nous devenions nous-mêmes. C'est-à-dire des enfants qui aiment leur Père Céleste. Bien sûr, c'est évident pour nous, notre destinée, celle de l'homme, c'est de revenir vers le divin. Divin, que Jésus lui-même a quitté, mais que nous aussi, nous pouvons quitter pour tenter de nous épanouir, c'est un mot qui est à la mode, sans Dieu. Tous, nous passons par ces interrogations, mais souvent sans y donner de réponse. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Maurice Genevoix, que vous connaissez peut-être, sûrement même, qui a écrit et qui est mort depuis très longtemps. Donc peut-être pour les plus jeunes, c'est plus compliqué de connaître qui était Maurice Genevoix. Je vois que les anciens le connaissent. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup sur la guerre 14-18, puisqu'il a fait la guerre 14-18, et il a écrit de nombreux ouvrages dessus. Et ce sont des ouvrages qui sont finalement assez tristes, parce qu'il raconte la vie des soldats de 14-18. Et il y en a un qui est pourtant plein d'espoir, c'est un ouvrage qu'il a appelé « La joie ». Et écoutez ce qu'il dit à propos de ces interrogations que nous pouvons nous poser sur ce que nous faisons de notre vie. Il dit « On ne sait pas, voyez-vous, on vit comme des brutes, sans jamais regarder en soi, ni se demander une seule fois ce que l'on est, et s'il est bien que l'on soit cela. On croit être raisonnable et fort, diriger librement sa vie. On ne s'aperçoit pas ce que nous-mêmes, réellement, ce qui nous entraîne au long des années. C'est le hasard et la chaîne des appétits. Qui les éclaire ? Comment et avec quel appui remonterait-il le courant qui les roule ? C'est une question que nous nous posons dans nos vies. Qui nous commande ? Qui permet que nous faisions telle ou telle chose ? Pour nous, chrétiens, c'est hyper facile de tomber dans le piège. Très facile. Parce que parfois, nous sommes un peu orgueilleux et nous avons Dieu, donc c'est tout ce qui m'arrive, ça vient de Dieu. C'est hyper facile de tomber dans ce piège, même en croyant être sur la bonne route. Parfois, notre manque de confiance en Dieu, alors qu'il nous demande de venir partager son repos et sa gloire, c'est ce que nous dit le psaume 110, eh bien, va se transformer en une religion et de rites et d'habitudes. Notre relation avec Dieu est une relation d'amour, de confiance et d'action. Le psaume nous dit « Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère ». Nous venons de le chanter. Le Seigneur est pour nous un bouclier, une force. Et nous pouvons, avec l'aide de notre Seigneur, briser le hasard, briser la chaîne des appétits. J'ai des appétits qui ne sont pas toujours chrétiens. Vous avez des appétits qui ne sont pas toujours ce que Dieu voudrait qu'ils soient, et qui nous empêchent de voir ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous vivions comme des hommes et des femmes libres de tout ce qui peut nous empêcher de rentrer à la maison divine. C'est ça que Dieu veut. Et dans l'épître de Paul à Timothée, il dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu ». Il faut toujours rallumer la flamme, tout le temps rallumer le feu. Vous savez, lorsqu'on voit tous ces incendies qu'il y a, on se dit « mais ça prend comme ça et ça détruit tout ». Je ne sais pas si vous avez essayé une fois de tenir un feu, ce n'est pas si évident que ça. Même pour le faire redémarrer, il faut une certaine technique. Et si nous ne faisons pas attention de ranimer notre flamme, eh bien, nous allons laisser le feu s'éteindre. Jésus lui-même, lors de sa venue sur terre, va se retirer et avait besoin de prier son Père. Si Jésus a besoin de prier son Père, est-ce que nous pouvons être assez vaniteux pour dire que nous n'avons pas besoin de nous retirer et de prier notre Seigneur ? Il avait besoin, Jésus, de rentrer en contact avec lui, bien qu'il soit Dieu lui-même, vous vous rendez compte ? Si lui avait besoin de ça, combien nous, qui sommes encore une fois tenaillés par nos appétits, nous avons besoin de lui. Qu'y a-t-il de pire pour l'homme que de ne pas savoir quoi faire de sa vie, que d'être indifférent au plan que Dieu a pour nous? Jésus d'ailleurs va s'indigner au sujet des gens qui sont indifférents. Et par contre, lorsque des femmes et des hommes s'arrêtent dans leur vie pour considérer l'œuvre de Dieu dans leur vie, le Seigneur exulte de joie. Quand vous vous arrêtez, quand vous prenez la décision de suivre le Seigneur, eh bien, le Seigneur exulte de joie. On voit ça en Luc, chapitre 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jésus est pris d'une joie que le Saint-Esprit lui imprime. Et pourquoi ? Il dit « Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Lorsque nous comprenons ce que Dieu veut pour nous, Jésus exulte de joie. Est-ce que vous pouvez penser à ça dans vos vies ? Exulter de joie pour Jésus. Alors, il faut bien sûr nous arrêter pour réfléchir à nos choix et ne penser qu'en fonction de Dieu. Laissons l'Esprit Saint nous modeler pour comprendre tout ça. Et ne nous laissons pas entraîner par l'esprit du monde qui nous empêche de tressaillir de joie grâce justement à cet esprit. Alors vous savez, lorsqu'on étudie les religions, notamment la religion des Grecs, les hommes essayaient d'expliquer tout ce qui leur arrivait en faisant intervenir des dieux faux qui n'existaient pas, mais pour essayer de comprendre. Et il y en avait un qui était particulièrement... de qui on avait peur, c'était Pandore. Pandore, c'était le personnage qui, dans une jarre, hein, suivant la mythologie grecque, il y avait dedans tous les malheurs. Hein. Et de temps en temps, il ouvrait la jarre. Et tous les malheurs venaient. C'est comme ça qu'on expliquait les malheurs, la souffrance, les guerres, les choses qui n'allaient pas. Et les Grecs croyaient que c'était à cause de Pandore que l'humanité allait connaître toutes sortes de calamités. Car il avait soulevé le couvercle d'une jarre d'où avaient jailli tous les malheurs du monde, et où seule l'espérance était restée dans le vase que Pandore hop, refermait aussitôt. Vous voyez, hein, ils expliquaient quand les gens étaient découragés, quand les gens étaient déprimés, quand tous les malheurs étaient... C'est parce que Pandore avait ouvert la jarre, mais qu'il avait refermé juste à temps pour que l'espérance ne sorte pas. Alors, c'est souvent ça qu'on voit dans le monde, finalement. Et parfois, nous-mêmes, en tant que chrétiens, on peut avoir cette idée-là d'être découragé parce que tous les malheurs du monde arrivent et que nous n'avons plus cette espérance. Deux prophètes ont parlé de ça. Il y a Amos, au chapitre 5 et au verset 6. « Cherchez l'Éternel et vous vivrez. » Et en Sophonie, chapitre 2, verset 1, « Rentrez en vous-même, examinez-vous. » Voyez, c'est un travail peut-être même d'introspection pour essayer de comprendre qu'est-ce que vous allez faire de vos vies. Qu'est-ce que c'est que vous offrez au Seigneur de vos vies. Et ce n'est qu'en sachant ce que nous savons, que nous ferons de nos vies, en sachant que c'est Dieu qui les dirige, que nous pouvons un peu dire à cette manière du prophète Michée, en Michée chapitre 3, verset 8, « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Donc vous voyez, l'Éternel, il faut le laisser rentrer en nous pour avoir de la vigueur et de la force. Et souvent, lorsque nous perdons courage, c'est parce que nous fermons la porte. Cette porte qui est finalement étroite. Alors, je dis ça aux gens qui sont jeunes, laissez votre cœur ouvert. Et puis aux moins jeunes aussi, et aux plus anciens aussi, laissez votre cœur ouvert pour que Dieu puisse y pénétrer. Alors c'est vrai que la porte, elle n'est pas toujours facile à laisser ouverte et elle n'est pas toujours facile à prendre. Il y a l'apôtre Paul, après Jésus, Jésus va poser continuellement la question... suis-je réellement, êtes-vous réellement citoyen du royaume de Dieu ? Êtes-vous vraiment entré dans le royaume de Dieu ? Et l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, dira « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. » Est-ce que vous avez cette démarche dans ma vie ? Est-ce que j'ai cette démarche, ou dans vos vies, de vous poser la question ? Est-ce que je suis vraiment citoyen du royaume de Dieu ? Alors, est-ce qu'on va continuer à vivre, comme le disait Maurice Genevoix, comme des brutes qui sont happés par leurs appétits et par leur manque de confiance en Dieu ? Bien, c'est vrai que la porte est étroite. Et pour trouver cette porte étroite, il faut la chercher. Regardez combien de fois on nous dit « cherchez le royaume de Dieu ». Examinez-vous, Regardez ce qu'il y a dans vos vies. Et vous savez, on n'a pas besoin de chercher la grande porte. La grande porte, elle est ouverte et on peut facilement y entrer. Et on peut y amener tout ce qu'on veut. Tout est accepté. Et cette voie, par contre, cette grande porte, eh bien, elle nous amène à la perdition. C'est plutôt la petite porte qu'il faut chercher, celle qui est plus délicate, plus difficile, et il faut nous examiner. Alors, qu'est-ce que nous enseignent tous ces versets? Eh bien, d'abord, c'est dangereux de suivre une grande porte où on peut tout prendre sur notre dos et tout dire, tout est bien, tout est bon. Y compris même dans nos traditions religieuses que nous avons héritées du passé. Le véritable disciple de Christ, il faut le savoir, sont en minorité. Peu de gens se contentent de la voie traditionnelle, qui est plus exigeante et qui ne les dérange pas trop. C'est plus facile d'avoir une vie où on ne se pose pas trop de questions et d'entrer par la grande porte. Et la porte, c'est simplement la petite porte, elle est simplement le commencement du chemin. Dieu a préparé pour chacun de ses enfants une vie de progrès et de service. En Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit « Car nous sommes en ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous sommes en ouvrage, même pour ceux qui sont dans le Seigneur depuis des années, nous sommes toujours en ouvrage, toujours, toujours. Il faut toujours s'examiner et se poser la question de savoir est-ce que ce que je fais, ce que je vis, les choix que je fais sont des choix que Dieu désire pour nous. Est-ce que, comme le dit le psaume, est-ce que Jésus est à notre droite? Est-ce que Jésus est avec nous? Et est-ce que nous laissons notre cœur ouvert à Dieu? Alors, il faut penser que ce psaume, qui est un psaume messianique, bien évidemment, peut s'appliquer à nous. Nous pouvons vaincre nos ennemis par la force de Dieu. Nous pouvons vaincre nos mauvaises habitudes. Nous pouvons vaincre nos mauvaises pensées. Nous pouvons vaincre tout ce qui fait obstacle à notre vie en Jésus-Christ. Et là, alors, nous pourrons dire que nous sommes des enfants du royaume de Dieu.